L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Guillaume Guénec, co-directeur de l'ONG Portes Ouvertes France, à propos de l'index mondial de persécution des chrétiens 2026. Il vient de sortir avec des chiffres exponentiels concernant les violences physiques, l'aggravation des violences et le rétrécissement des libertés fondamentales pour les chrétiens. Tout un programme, on va en parler aujourd'hui. Guillaume Guénec, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Écoutez, comme chaque année, c'est un plaisir et puis c'est presque, j'allais dire, une nécessité aujourd'hui, à l'instar aujourd'hui de la montée des chiffres de l'antisémitisme en France et ailleurs dans le monde. Il me semblait important également de faire un focus sur ces chiffres qui sont alarmants. Alors, comme chaque année, on va revenir au début, vous éditez l'index mondial de persécution des chrétiens. Alors, avant de parler des chiffres, est-ce qu'on peut faire un retour sur la genèse de cette collecte de chiffres qui va bien au-delà de simples chiffres. On est aujourd'hui dans une radiographie mondiale de persécution des chrétiens et ces chiffres accompagnent aujourd'hui, je dirais, presque un changement de civilisation.
Oui, on est sur un phénomène effectivement global, mondialisé, extrêmement inquiétant parce que derrière la persécution des chrétiens, c'est la violation des droits de l'homme, la liberté religieuse évidemment, mais la liberté d'expression, la liberté d'association, toutes les grandes libertés sont remises en cause. Et là où les chrétiens sont persécutés, bien souvent d'autres groupes religieux le sont aussi. Donc finalement, quand on parle de la persécution des chrétiens, il faut voir que derrière, c'est tout effectivement toute une société qui oublie l'importance de la liberté de religion et c'est d'énormes souffrances humaines et une question d'intolérance globale sur le monde dans lequel on vit actuellement, qui semble devenir de plus en plus violent, et de plus en plus intolérant.
Quand vous avez commencé, vous, à éditer cet index mondial de persécution, il y a plus de 30 ans, il me semble.
Oui, il y a 33 ans, c'était en 93 la première fois.
Ouais. Quel était l'objectif au départ? Vous partiez d'un constat précis?
Alors, l'objectif, il était d'abord interne. Donc, nous, on est une association qui a été fondée en 1955. À l'époque, nos actions pour la persécution des chrétiens étaient surtout mobilisées sur l'Europe de l'Est. C'était l'époque où les chrétiens étaient persécutés par les régimes communistes. Et après la chute du mur, dans les années 90, on a commencé à essayer de réfléchir, OK, dans quel pays maintenant les chrétiens sont plus persécutés et pourquoi? Donc on a commencé à créer cet index, d'abord pour nous, pour savoir comment prioriser notre aide. Parce qu'on n'arrive pas à aider tous les chrétiens persécutés, c'est vraiment un phénomène qui nous dépasse. Et puis au fur des années, on a affiné la méthodologie, on s'est rendu compte que c'était un bon moyen de communiquer, parce que cet index, c'est un classement. On fait le classement des 50 pays où les chrétiens sont plus persécutés, selon 84 critères pour chaque pays de différents types de violations de la liberté religieuse. Et donc, ça permet de suivre année après année les évolutions, et puis aussi de voir quels sont les pays sur lesquels il faut vraiment s'inquiéter.
La collecte, justement, de ces chiffres de privation de liberté jusqu'à la persécution physique et les violences qui l'accompagnent, comment est-ce que vous les nourrissez? Comment est-ce que vous les collectez? Voilà, j'ai cherché le mot.
Alors, on est implanté dans plus de 70 pays avec des réseaux de partenaires locaux, des chrétiens, des églises, des experts des droits de l'homme, des chercheurs qui remontent les informations. On est d'abord une ONG de soutien, donc on a plein de projets pour aider les chrétiens sur place, et souvent ils apportent leurs témoignages, ils racontent ce qui s'est passé pour eux, et ça nous permet aussi d'avoir accès à certaines informations qui ne vont même pas être dans la presse dans certains pays. Au total, on a plus de 4000 personnes qui participent à la collecte des données, la vérification, parce que pour chaque cas de persécution, il faut qu'on ait l'identité de la victime, la date, le lieu, dans certains cas, si possible, qui est le persécuteur, pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc c'est vraiment tout un travail d'analyse. Après, on recoupe avec des informations extérieures pour vérifier les informations. Donc au total, on voit plus de 4000 personnes qui travaillent sur le sujet.
Est-ce que aujourd'hui, cet outil, cet index mondial de persécution des chrétiens, est-ce qu'il va servir à d'autres ONG pour mener des actions d'aide à certaines populations dans des pays? Alors on parle beaucoup de Moyen-Orient, c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment, il y a énormément de guerres et de groupes djihadistes terroristes, il faut dire les choses aussi. En Afrique c'est pareil selon les pays, et après les pays se divisent aussi, il y a des factions. Comment est-ce que vous pouvez concrètement alerter sur un sujet en particulier et peut-être mettre en place une aide avec une autre ONG?
Oui, c'est ce qu'on fait. On a un certain nombre d'ONG partenaires et puis nos informations sont publiques. Elles permettent justement de mettre la lumière sur un phénomène mondial, un phénomène qui n'est pas, je pense, traité à la mesure de tout ce que ça implique en termes de souffrance humaine. Et c'est aussi un outil d'expertise qui est repris au niveau politique. Souvent, notre index est cité par le ministère des Affaires étrangères en réponse aux questions au gouvernement. Donc, on voit que c'est quand même un document d'expertise qui permet de faire connaître le sujet. Maintenant, c'est à chacun de s'en saisir. Finalement, la persécution des chrétiens, ça nous concerne tous, qu'on soit chrétien ou pas, religieux ou pas, de savoir qu'aujourd'hui, en 2026, 380 millions de personnes sont persécutées, discriminées, juste parce qu'elles croient en Jésus-Christ, ça devrait nous alerter. Dans quel monde on vit ? On devrait être libre de croire ce qu'on veut partout dans le monde.
Alors, le point commun, la montée des extrémistes, je le disais, des extrémistes religieux, l'imposition de la charia, le communautarisme religieux, communauté chrétienne de plus en plus isolée, je le disais, en Moyen-Orient, en Afrique. Et alors, on a des chiffres assez terribles, évidemment, on se souvient encore récemment du Nigeria. J'ai l'impression qu'évidemment, c'est pas très médiatisé, pas tant que ça, en fait, contrairement à d'autres conflits aujourd'hui qui ont vraiment pris des pages entières des médias mainstream, comme on dit aujourd'hui. Plus surprenant, la Corée du Nord, aujourd'hui, où les chrétiens sont persécutés. Pour quelles raisons ?
Oui, la Corée du Nord, c'est le pire pays pour les chrétiens, et ce, depuis une vingtaine d'années. En fait, en Corée du Nord, on est arrivé au bout d'une logique qui est un culte de la personnalité absolue. Les Nord-Coréens sont sommés de vénérer la dynastie des Kim. Et il y a tous les éléments d'une compétition presque directe avec Dieu. Il y a des statues partout des Kim, les Nord-Coréens s'agenouillent devant. Dans chaque appartement, il y a une photo des Kim qui doit toujours être époustée. Il remercie les Kim avant de manger, comme les croyants remercient Dieu. Et dans ce contexte, le seul fait de croire en Dieu fait de vous un traître envers le régime. Surtout qu'en plus, le christianisme est vu comme la religion de l'impérialiste américain. Donc dans ce contexte, les quelques chrétiens de Corée du Nord sont tous des chrétiens secrets, ce sont des réseaux secrets d'église, ils prennent des risques absolus pour se retrouver, et la loi même en Corée du Nord dit que la Bible est un livre interdit qui entraîne une punition exemplaire. Donc si quelqu'un est découvert comme chrétien, il risque soit l'exécution sur place, soit d'être envoyé en camp de travaux forcés. Donc voilà, on est là, c'est le pire pays pour les chrétiens, parce qu'il n'y a aucun espace de liberté. Le fait même de croire en Dieu fait de vous un traître.
Et de quelle façon, justement, ils communiquent pour faire remonter des chiffres ou des faits, tout simplement ?
Alors, il y a quand même des échanges, parce que un certain nombre de Nord-Coréens arrivent à fuir et à passer la frontière avec la Chine. Et ça nous permet d'avoir des informations, d'autant que certains, ils fuient pour d'autres raisons, pour des raisons politiques ou juste pour la survie, ils vont se convertir, devenir chrétiens en Chine, et certains décident de revenir et disent non, je veux revenir dans mon pays pour partager la bonne nouvelle qui a changé ma vie avec les miens, même si c'est risquer ma vie et terminer dans un camp de travaux forcés. Donc, il y a aussi une foi qui est là, qui est très impressionnante pour nous, parce qu'ils sont à un niveau où ils ont tout contre eux, et ils continuent à y croire, et même, ils continuent à vouloir retourner dans leur pays, vivre leur foi, avec tous les risques que ça implique.
La Somalie également est très divisée aujourd'hui, le Nord, le Sud.
Alors, la Somalie s'est divisée, et en même temps, il n'y a aucune partie qui va soutenir les chrétiens. La Somalie se proclame comme un pays 100% musulman, c'est ce que disent les autorités. Il y a d'énormes pans du territoire qui sont contrôlés par un groupe terroriste qui s'appelle Al-Shabaab, qui a plusieurs fois affirmé sa volonté d'éradiquer toute présence chrétienne. Donc eux, ils vont traquer tous ceux qui considèrent comme des musulmans pas assez pieux, qui soupçonnent de dévier, et ils vont les tuer sur place. Les chrétiens, qui sont tous des convertis d'arrière-plan musulman, sont aussi persécutés par leur famille, par leur clan. Donc, si vous êtes chrétien en Somalie, j'ai vu récemment une interview d'un pasteur somalien qui a dit « Si vous êtes pasteur en Somalie, vous ne soutenez pas de votre retraite parce que, selon toute vraisemblance, vous n'y arriverez pas. » C'est dire le niveau de dangerosité. Et ce chrétien est le seul survivant avec un autre d'une église secrète de 14 personnes. Tous les autres ont été tués.
Ah, donc c'est très anecdotique, 14 personnes sur un pays comme
la
Somalie.
Là, on parle de ouais. quelques dizaines, quelques centaines, des poignées de chrétiens. Mais malgré tout, dans tous les pays, même les plus compliqués, on voit que, même si c'est un petit nombre, il y a des gens qui font ce choix, qui exercent cette liberté, qui découle de notre dignité humaine, de choisir la religion de leur choix. Et dans tous les pays, même les plus fermés, il y a des gens qui vont se dire chrétien, même s'il n'y a pas d'église, même s'il n'y a pas de dénomination reconnue, parce qu'ils vivent une expérience personnelle de conversion. Et ça, c'est assez troublant, merveilleux d'un certain point de vue, mais c'est aussi les gens qui souffrent énormément.
Le Nigeria, et ça fait ça quelques années qu'on en parle, il y a eu des exactions, des décapitations, des enlèvements, des viols de jeunes femmes. Aujourd'hui, est-ce que ce sont des situations que vous risquez de devoir s'enflammer à l'ensemble de d'autres pays d'Afrique ? On sait qu'aujourd'hui, il y a des pays d'Afrique qui ont quand même une culture chrétienne très présente, hein, souvent d'anciens pays colonisés. Mais aujourd'hui, c'est une crainte aussi que vous avez que les pays voisins et limitrophes souffrent également de cette islamisation forcée ?
Oui, alors le continent africain, et surtout l'Afrique subsaharienne, l'Afrique au sud du Sahara, est sur un point de bascule actuellement. On a vu la bascule opérer dans nos chiffres à partir de 2015. À partir de 2015, c'est plus la Syrie qui est le premier pays où les chrétiens sont tués pour leur foi, ça devient le Nigeria. Et à partir de 2015, on observe une migration de groupes terroristes affiliés aux deux grandes familles du djihadisme mondial, Al-Qaïda et l'État islamique, qui vont faire de l'Afrique subsaharienne leur nouveau laboratoire stratégique. Et on voit des pays avec justement une culture de la tolérance, de l'harmonie interreligieuse entre chrétiens et musulmans. On pense au Mali,
oui.
On pense au Burkina Faso, qui étaient des pays modèles en la matière, qui sont en train de basculer parce que des pans entiers du territoire maintenant sont contrôlés par Jenim, donc Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara. Dans les territoires qu'ils contrôlent, ils imposent la charia, ils imposent leur vision, qui est une vision totalement différente de l'islam qui était pratiqué jusqu'alors. Et dans ce contexte, les chrétiens sont pris pour cible, sont persécutés. Au Nigeria, on a une situation encore plus complexe dans le nord du pays, où il y a Boko Haram, il y a l'État islamique, il y a plein d'autres groupes, la Kurawa, Mahmouda, Ansaru, qui se sont développés et qui ont aussi un agenda islamiste. Et ce phénomène commence même à toucher des pays majoritairement chrétiens, dans certaines régions un peu éloignées de la capitale, où des groupes terroristes prennent pied. Et à chaque fois, c'est la même logique. C'est là où les institutions étatiques faillissent, il y a un vide de pouvoir, s'engouffrent des groupes terroristes, et ceux-ci vont s'en prendre aux minorités religieuses, aux symboles de l'État et aux musulmans qu'ils considèrent comme trop modérés. On voit ça dans l'extrême nord du Cameroun, on voit ça dans la région de Cabo Delgado au Mozambique, où il y a des décapitations de chrétiens qui sont filmées. Et on voit ça en RDC, Congo-RDC, dans le Nord Kivu, Ituri, où l'année dernière, il y a une église qui a été attaquée en juillet pendant une veillée de prière. Quand on va jusqu'à attaquer les chrétiens dans leurs églises, et là, c'est un groupe en particulier qui fait ça, c'est ADF, Allied Democratic Forces, qui a prêté allégeance à l'État islamique. Là, il y a très clairement de la persécution des chrétiens.
L'islam politique, aujourd'hui, implanté, on l'entend, hein, de nombreux pays au Moyen-Orient, en Afrique, aujourd'hui, de quelle façon ? Alors ça, c'est pas de votre ressort, vous êtes évidemment sur une analyse de données de pays, mais pour vous, quels ressorts peuvent être mis en place ? C'est pas par la prière qu'on va se battre contre des groupes armés et contre un islam, j'allais dire politique, mais un islam d'État, une charia, quelque chose d'imposé, de très violent. Comment est-ce que, quelque part, peut s'organiser une résistance ?
Alors vous dites, c'est pas par la prière, c'est aussi par la prière,
aussi.
C'est aussi ce qu'on croit. Et c'est aussi un phénomène qu'on doit voir dans les deux sens. Parce qu'on est aussi, pour ce qui est de l'islam, à un tournant historique où on n'a jamais eu autant de conversions de l'islam au christianisme. Il y a des études qui ont été faites, je vous mentionne un des livres d'un chercheur Garrison qui s'appelle un vent dans la maison de l'islam, qui explique qu'il y a eu plus de conversions de l'islam au christianisme depuis 2000 à aujourd'hui que depuis l'avènement de l'islam et 2000. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui se passe à la fois, je pense qu'il y a des raisons sociales, il y a justement le fait qu'il y a des groupes terroristes, ça va remettre en cause certains musulmans dans leur foi qui vont rejeter. On voit qu'en Iran, où le régime est une théocratie chiite, c'est l'un des pays où il y a le plus de conversions christianistes dans le monde. Donc c'est des choses qui doivent interpeller. Et il y a aussi des histoires de vie qui sont complètement folles. Des gens qui voient des rêves, qui voient un homme en blanc, qui décident de se procurer une Bible, de le suivre. Donc il se passe quelque chose, effectivement, dans l'islam. Et en même temps, on voit cette radicalisation qui cause énormément de souffrance. Et donc s'il y a la prière, il y a aussi la responsabilité politique. Et ça, c'est une des grandes leçons de l'index. Quand les autorités prennent le sujet à cœur, sérieusement, on pense au Bangladesh, qui est une des seules bonnes nouvelles de l'index de cette année. Le nouveau Premier ministre a régulièrement pris position pour les minorités religieuses, pour la liberté de religion. On a vu une baisse de la persécution. Ça veut dire que quand des autorités prennent le sujet au sérieux, il peut y avoir des résultats. Donc, il y a évidemment quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, où je pense qu'on est appelé aussi à soutenir par la prière. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la citoyenneté. Ça nous concerne tous. On peut signer des pétitions, on peut donner, on peut s'intéresser, on peut relayer les informations. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du politique. C'est la responsabilité des autorités que de protéger leurs citoyens.
Et aujourd'hui, c'est appliqué, ça. Alors évidemment, on ne va pas parler de la Corée du Nord, là, dans ce cas précis, mais par exemple, dans les pays d'Europe, aujourd'hui, les chrétiens sont protégés.
Oui, on a quand même la chance de vivre dans un pays. Bon, la France n'est pas un pays à persécution forte. On a la liberté d'avoir autant de Bibles qu'on veut chez soi. On peut inviter des amis pour prier et lire la Bible. Je peux partager ma foi dans la rue à qui je veux. Je peux aller à l'église comme je veux. On a des grandes libertés qui sont une chance, mais qui sont un droit aussi. Hein, c'est normal. En fait, on devrait tous avoir ces libertés-là, quel que soit le pays et quelle que soit notre religion. Mais la question que les chrétiens persécutés nous posent, c'est quand eux, ils ont tout contre eux, ils décident de suivre Jésus coûte que coûte, moi, est-ce que ma Bible prend la poussière? Est-ce que je vais vraiment à l'église alors que je risque rien? Je risque pas une attaque à la bombe ou je risque pas d'être enlevé en chemin? Je peux partager ma foi, est-ce que je le fais? C'est les choses qui nous remettent en question, nous aussi, je pense, en tant que croyants. Et c'est aussi des questions qui sont posées à la société en général. Des questions de tolérance, des questions de qu'est-ce qu'on fait de notre liberté, est-ce qu'on est prêt à la défendre, est-ce qu'on est prêt à la promouvoir pour les autres, parce qu'on dit un chrétien sur sept qui est persécuté dans le monde aujourd'hui, 6 sur 7 qui peuvent le soutenir. Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait justement concrètement ? Ça rejoint la question d'avant.
On a plein d'actions qu'on propose, vous pouvez soutenir des projets sur place, on a plein de projets dans les pays pour aider les chrétiens, les autonomiser, des soins post-traumatiques, des projets humanitaires, des livraisons de Bibles. Dans plus de 70 pays, on a des projets très concrets. On a une pétition en ce moment pour prendre position face à la violence en Afrique subsaharienne qu'on a mentionnée. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet portesouvertes.fr, la signer. Ça prend quelques secondes et en même temps, ça permet d'ajouter votre voix et de porter ce sujet à la communauté internationale. Et puis il y a plein d'autres associations qui aident les chrétiens persécutés, les autres groupes religieux persécutés que vous pouvez aller voir. Donc oui, on peut agir.
Guillaume Guenec, on l'entend, vous êtes chrétien, vous êtes croyant, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez, après toute l'énumération de ces chiffres, vous avez foi en l'humanité ?
J'ai foi en Dieu. Alors, l'humanité, c'est une autre question, mais il y a toujours de l'espoir. Quand je vois justement les chrétiens de Corée du Nord qui sont confrontés au pire degré de persécution possible, les nouvelles qu'on avait eues l'année dernière, c'était qu'ils demandaient à être informés de la persécution dans les autres pays pour pouvoir prier pour eux. Moi, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, ok, il y a encore de l'espoir. Si même eux qui sont confrontés au pire degré de souffrance s'intéressent toujours aux autres pour les soutenir, alors tout n'est pas perdu.
Guillaume Guenec, co-directeur de l'ONG Portes Ouvertes France, à propos de la sortie, il est tout frais et il vient de sortir des presses, l'index mondial de persécution des chrétiens 2026. Une dernière question, où est-ce qu'on peut se le procurer ?
Vous pouvez vous le procurer sur notre site internet, on a une boutique en ligne, donc portesouvertes.fr, et puis voilà, je crois que c'est 9 €. Donc n'hésitez pas, ça permet d'être informé, à la fois sur le sujet spécifique de la persécution des chrétiens, mais aussi sur l'état de notre monde aujourd'hui.
Guillaume Guenec, merci infiniment.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.